Partout dans le monde.
C'est les conseils
infotrafic.
Il est 19h, bienvenue.
Aujourd'hui
à l'instant, ce mercredi soir, on est au gros départ de ce long week-end de la
Je suis attendu dans ta chambre, c'est tout.
Les grandes
Fun Radio.
8h46, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
France Info.
Des nouveautés.
Tout est plus clair.
Sud Radio.
La radio du rock.
Et oui.
Jazz Radio.
Tu nous appelles nous
Nova.
Nova.
Contact FM.
BFM Business.
Radio Classique.
Mélodie.
Et votre journée devient plus belle.
Révolution dans le transistor.
Bonjour, je m'appelle Gérald Bouchon, je suis actuellement journaliste et directeur de la radio Lyon Demain. Ma première radio, en 1985, s'appelait Radio Forum, saisie par la justice en 1986, une année plus tard. Immédiatement, j'intègre les équipes d'une autre radio locale, Radio Arc-en-Ciel, avant de créer Lyon Première dans sa version Radio de l'Info et de l'Écho. Depuis 2018, avec Lyon Demain et son équipe, je défends l'idée de radio avec une ligne éditoriale qui donne du sens et qui défend des valeurs pour l'environnement, la solidarité et le vivre ensemble. Comme l'écrivait Sénèque dans ses lettres à Lucilius en 64 après Jésus-Christ, soit un siècle après la fondation de Lugdunum, le passé doit conseiller l'avenir. Pour ma part, l'arrivée des radios libres en 1981, alors que j'avais 16 ans, a quelque peu bouleversé mes plans établis. Non, je ne serai pas ingénieur des ponts et chaussées, mais bien homme de radio resté à trouver les bonnes clés qui ouvrent les bonnes portes. Nous terminerons cette série de podcasts Révolution dans le transistor par une réflexion sur l'avenir de la radio. Mais d'abord, revisitons cette histoire qui débuta en 1921, il y a un siècle tout juste, et connut une accélération fulgurante en 1981, il y a 40 ans.
Révolution dans le transistor. La radio a 100 ans.
Premier épisode, 1921, l'acte de naissance d'une nouvelle technologie, la radio. Nous évoquerons les premiers pas des pionniers à Paris, puis à Lyon, le rôle de la radio pendant la guerre, puis l'avènement des radios « modernes », entre guillemets, et en particulier les fameuses radios périphériques. Rien à voir, vous verrez, avec nos autoroutes urbaines. Nous en parlerons avec un historien de la radio, Alain Léger. Et nous terminerons par une évocation de la première radio pirate en France, à Lille. Radio Campus se paye le luxe de fêter ses 52 ans. Nous avons retrouvé son fondateur, un récit passionnant à découvrir dans ce premier épisode de « Révolution dans le transistor ». Alors voilà, la radio, elle ne s'est pas toujours appelée radio. Au début, on parle de TSF, télégraphie sans fil. La télégraphie filaire, donc avec le fil, utilisait à la fin du 19e siècle un câble pour traverser l'Atlantique. Faire transiter l'information grâce aux ondes hertziennes et s'affranchir du câble, un rêve réalisé par un Italien, un certain Marconi. D'où plus tard la marque de transistor bien connue, Marconi ou Pâté Marconi. En décembre 1901, le premier signal radio transatlantique est reçu sur l'île de Terre-Neuve. Si Marconi réussit cette prouesse, on peut difficilement lui attribuer l'invention de la radio. Les frères Lumière ont inventé le cinéma, Barthélemy Timonier, la machine à coudre, Edmond Lecaire, la police scientifique, pour ne citer que des Lyonnais. Mais la radio, c'est une autre affaire, en quelque sorte le fruit de divers travaux. L'Écossais Maxwell, l'Allemand Hertz, les ondes portent son nom aujourd'hui, le Français Édouard Branly qui découvrit la radioconduction, ou encore le Russe Alexandre Stepanovitch Popov. Ce dernier allait inventer le premier récepteur radio qui permettait surtout d'écouter des parasites à l'époque. Tout ce petit monde fait donc avancer la technologie. Les premières applications arrivent dans le domaine maritime. Les émissions radio sont rendues obligatoires en 1914 après le naufrage du Titanic 2 ans plus tôt. Durant la Première Guerre mondiale, les communications radio participent à rendre l'armée plus moderne et plus efficace. Après la guerre, les moyens militaires sont reconvertis pour ouvrir la voie à une exploitation civile et commerciale de la radio. Mais il faut attendre 1921 pour entendre la première émission de radio comme un cadeau du Père Noël. Le 24 décembre 1921, le poste de la Tour Eiffel émet pour la première fois.
Datele voi qualche sofferta, mi trucco dal rimorso, mi trucco dal rimorso. Quel di civili comandà, quando la maldiziene, amate la chi crede,
Et comme à Lyon, on fait toujours mieux qu'ailleurs, notre ville verra la création non pas d'une, mais de deux stations. La première, Lyon-la-Doye, hérite des installations militaires de l'État. Elle déménagera à Tramois, sur le plateau de la Dombes, et deviendra l'émetteur onde moyenne de la région, diffusant jusqu'en 2016 les programmes de France Info. La seconde, Radio Lyon, est une initiative privée qui démarre le 1er avril 1925. Elle s'installe au 39 rue de Marseille et elle lance son journal parlé dès 1926. On y entend aussi les causeries de la mère Cotivet, ce truculent personnage lyonnais, une concierge croix-roussienne commentant l'actualité dans le langage de Guignol. Radio Lyon s'entoure d'une équipe de fidèles collaborateurs, la plupart sont issus de la presse écrite. Mais Radio Lyon change de main en 1928. Un certain Pierre Laval, ancien ministre, futur président du Conseil, il deviendra chef du gouvernement de Vichy et sera même exécuté à la fin de la guerre. Il est le nouveau propriétaire de Radio Lyon. On comprend déjà que la radio pourra devenir un outil politique. En novembre 1934, Radio Lyon est autorisé à transférer son émetteur en dehors de l'agglomération lyonnaise et à augmenter sa puissance. Pierre Laval fait construire le bâtiment Radio Lyon, dont les vestiges classés à l'inventaire des monuments historiques sont encore visibles aujourd'hui le long de la route de Paris. Les deux stations lyonnaises disparaîtront à la fin de la guerre, en 1944. Le monopole d'État sur la radio reprend ses droits jusqu'en 1981. Dans quelques instants, Révolution dans le transistor se poursuit avec notre premier invité.
Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir.
Et dans la Révolution, dans le transistor, nous sommes avec Alain Léger, fondateur de Choupe. Bonjour Alain.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez d'abord nous préciser, nous rappeler ce qu'est Choupe, parce que le grand public ne connaît pas forcément ce site internet.
Alors Choupe, qui s'écrit S-C-H-O-O-P.fr, est un site qui répertorie plus de 4000 à 5000 radios qui ont émis ou qui émettent toujours en France, avec des historiques, qui sont les fondateurs, où est-ce qu'ils émettaient, leur adresse, leur contenu, etc. On trouve aussi des logos, des extraits d'émissions, des jingles, et on trouve aussi des reproductions de leur de pages publicitaires et aussi des photos de studios, d'animateurs, de responsables des radios en question.
Voilà, il suffit de taper par exemple une année ou une ville ou le nom d'une radio et on trouve tout ça.
Voilà, le nom d'une radio, les radios sont classées par département. Donc si vous voulez voir toutes les radios qui ont émis sur Lyon notamment, vous cliquez 69 sur département et après vous aurez toute une liste, près d'une centaine de radios de Lyon, du 69 plutôt.
Alors j'ai choisi de vous appeler pour parler un petit peu de l'histoire de la radio. On en est vraiment au tout début dans ce premier épisode de la Révolution dans le transistor, avec ces radios, avec cette radio qui est née finalement en 1895. Hein, à Lyon, on inventait le cinéma, et puis pendant que d'autres, et un certain Marconi en particulier, inventaient la radio en 1895 également. Mais il faut attendre véritablement les années 20 à Paris et à Lyon aussi, pour entendre les premières radios qui s'adressent au grand public, car au départ, la radio, c'est une expérience scientifique et puis également une utilisation utilité militaire, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Première véritable émission de radio qui diffusait de la musique et de la parole sont intervenues dans les années 20 et notamment en 1921, puisque cette année, en 2021, on va fêter aussi les 100 ans de la radio, des programmes radio plutôt.
Ça ressemble à quoi justement les programmes radio à cette époque ?
Bah, les programmes radio sont souvent des diffusions en direct, puisqu'à l'époque il n'y a pas de magnétophone véritablement. Des émissions d'orchestre symphonique ou d'orchestre lyrique, voilà, c'est souvent ça, ou des pièces de théâtre aussi.
Alors cette technologie naissante, je suppose que la législation encore n'est pas encore vraiment en place, on se cherche, il y a quand même des radios d'État, mais aussi des radios privées qui coexistent à l'époque, c'est un peu les radios libres.
Oui, les premières radios à se lancer ont souvent été des radios de fabricants de TSF, comme on disait à l'époque, d'appareils de réception, comme Radio LL, qui était radio des fabricants de radio, ou Radio LA, notamment. Et après, des radios privées, puisqu'on était en ondes moyennes, se sont installées un petit peu partout en France.
C'est le cas donc d'une radio qui s'installe à la Tour Eiffel, et qui s'appelle tout simplement Radio Tour Eiffel, c'est ça ?
Oui, aussi. Et puis, il y avait des journaux aussi qui ont lancé des radios, comme le journal Le Petit Parisien, qui avait lancé le Poste Parisien, et puis d'autres radios qui étaient liées, comme Radio Toulouse était lié à la Dépêche du Midi à Toulouse.
Et c'est en 1925 qu'apparaît une certaine Radio Lyon. Il y a aussi une autre radio qui s'appelle Lyon-Ladoire. Il y a deux radios, en fait, une qui est publique, qui dépend des PTT, l'autre qui est plus privée, qui est installée ensuite à Dardilly. C'est vraiment les prémices de la radio en province ?
Oui, c'est cette époque-là, 1930, je dirais jusqu'à la guerre, où la plupart des radios ont été soit récupérées par l'occupant, soit elles se sont... s'aborder.
Et après la guerre, est instauré le fameux monopole dont on parlera jusqu'en 1981, donc jusqu'au 10 mai en l'occurrence. Voilà. Pourquoi ce monopole est instauré après la guerre et...
un monopole s'instaure parce que peut-être des radios qui avaient existé avaient collaboré avec l'occupant et alors, il y a eu la libération en 1945. Toutes les radios de province sont passées sous le contrôle de l'État. Et la radio privée a été interdite et ne subsistait plus que des radios d'État et notamment la RDF, la radiodiffusion française.
Et ça dure quand même pendant 35 ans. Hein.
Voilà, jusqu'en 1980, jusqu'en novembre 80. D'ailleurs, la première radio, j'irais avoir émis en 44, c'était le 20 août. C'était la radiodiffusion de la nation française.
Et qui était ?
Bah, qui était une radio faite par les autorités qui avaient libéré le pays, quoi. C'était à Paris. Diverses époques, cette radio publique a changé de nom. Ça s'appelait la RDF. Après, en 49, c'est devenu la RTF, Radio-Télévision Française. Puis l'ORTF qu'on a connu. Et puis aujourd'hui, Radio France.
Dans quelques minutes va débuter Radio France, France Inter, ORTF va finir. Donc avant d'ouvrir cette porte à cette nouvelle radio, j'aimerais, pour la dernière fois, écouter cet indicatif France Inter, ORTF, si vous le voulez bien. Dix secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lundi 6 janvier 1975, ici Radio France, 0 heure. Vous écoutez France Inter.
Après, avec cette instauration du monopole, il subsistait quand même des radios que l'on disait périphériques, avec notamment une radio qui émettait déjà avant-guerre et qui a émis aussi pendant la guerre, puisqu'elle était en Andorre, c'était Radio Andorre.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Infa. infantil con las voces de Lidia Linares, María Pura del Rey, control de sonido, Agustín Pizarreño.
Club Nocturno es una audición de música variada de actualidad. Este programa llega a todos los hogares españoles.
No olvide que en el Principado de Andorra hay la
Reos número uno, Principado de Andorra.
Voyons d'or, il est 19h, et voici dans son disque quelques nouveautés sélectionnées par Jean Benny.
Le matin, c'est chouette sur Radio Andorre.
Nous avions aussi Radio Luxembourg, qui existait depuis 1923, qui a été rendu à ses anciens propriétaires à la Libération, et qui est devenu RTL en 1966.
RTL et Max Meynier vous disent, les routiers sont sympas. Relax, Max. Salut les artistes.
Et aussi Radio Monte Carlo, qui est une radio qui avait été créée en 1943 par les occupants nazis pour faire une radio de propagande et qui, à la Libération, a été reprise par l'État via la Sofirad.
Qui était une société avec des participations de l'État, avec voilà, une sorte de participation de l'État.
C'était l'État qui avait des participations dans les radios et notamment aussi une radio qu'elle créa de toutes pièces en 1958 qui s'appelait la Radio des Vallées et qui est devenue un peu plus tard Sud Radio.
Alors justement, c'est un petit peu alambiqué hein, cette histoire de Sud Radio, Radio des Vallées, Radio Andorre. Il y avait deux radios, hein, c'est ça?
Voilà, il y avait Radio Andorre qui existait déjà avant-guerre, qui a été créée en 1935, qui était la propriété de Jacques Tréboulet, qui était aussi propriétaire de Radio Toulouse et d'un certain nombre de radios dans le sud-ouest de la France. Et Radio Andorre avait continué à émettre pendant la guerre, puisqu'elle émettait depuis l'Andorre. Et à la Libération, d'ailleurs, on a suspecté Radio Andorre d'avoir collaboré avec les nazis. Il n'est pas totalement vrai, puisqu'elle ne diffusait que de la musique à l'époque et pratiquement pas d'informations. Ça n'a pas empêché que Jacques Trémoulet ait été condamné à mort et qu'il a dû se réfugier en Espagne. Après, il y a eu un Français qui s'est marié, et puis dans sa dot, enfin, à la corbeille de mariée, il a trouvé une concession de radio, qui était en fin de compte la concession de Radio Andorre. Et puis il y a eu des procès, il s'estimait être le titulaire de la concession pour Radio Andorre, mais en fait il y a eu, après en 1951, Andorre considérait qu'il pouvait y avoir deux radios, mais c'était très long. L'État français voulait absolument créer une radio dans le sud-ouest pour conclure sur Radio Andorre, qui était très écoutée dans les années 50, dans tout le sud-ouest. C'est comme ça qu'a été créée la société Ando Radio, et qui a créé... comme je le disais, en 1958, Radio des Vallées, et qui après a changé un petit peu de nom pour devenir Sud Radio.
Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, Radio Monte Carlo, ou t'écoutes pas.
En bateau, en auto, on entend partout Radio Monte Carlo.
Radio Monte Carlo, et pour toujours, je suis fidèle.
Prends Radio Monte Carlo, dès qu'on arrive au bord de l'eau, Frédéric ou Jean-Pierre Foucault, des jeunes Guy Vial, Jacques Balenco, ah, tu parles d'une chouette radio.
Pour savoir tout sur Radio Monte Carlo, de la vie à Chicago, on fait le tour de la terre, on fait le tour de la terre.
Alors ces radios périphériques, hein, qu'on appelle aujourd'hui des radios généralistes, expliquez-nous, rappelez-nous un petit peu le contexte, pourquoi on les appelait des radios périphériques?
Périphériques parce que leurs émetteurs étaient à la périphérie du territoire français, notamment Andorre pour Radio Andorre. Monte Carlo, l'émetteur a toujours été en territoire français, au Mont Agel ou alors à Roumoule, mais ça c'est une petite exception. Et puis Luxembourg, l'émetteur était à Luxembourg pour RTL. Et puis une autre radio qui a été créée en 1955, qui est Europe numéro 1, dont l'émetteur se trouvait dans le duché de Sarre, en Allemagne fédérale. Donc toutes ces radios étaient, on disait, périphériques, parce que les émetteurs n'étaient pas en France. Elles étaient reliées, les studios étaient en France, mais un câble partait vers l'émetteur qui lui était à l'étranger.
Ici Europe numéro 1.
Hier ist Europa Nummer 1.
This is Europe number 1.
Ce bel appareil, c'est le Carillon d'Europe, hein, qui a été mis en route au démarrage de la station en 1955. Il était relié à une pendule et donc il sonnait à l'heure exacte. Donc toutes les heures, le Carillon d'Europe. Hein, en 1996, Jérôme Bellet a décidé que c'était un peu gênant ce carillon qui arrivait parfois au milieu d'une pub, parfois au milieu d'une interview quand les émissions n'étaient pas terminées. Donc il n'était plus relié à la pendule, c'était le technicien qui l'envoyait quand la pub était finie, quand l'interview était finie. Alors ce qu'on a gagné en souplesse, on l'a perdu en ponctualité, évidemment. Il est un peu usé, donc il a un son un peu vieillot. Mais voilà, alors c'était donc un micro qui prenait ce son-là, qui était retransmis sur l'antenne. Après, il y a eu des amplis, et après on est passé à l'électronique, donc évidemment, le son est devenu tout à fait autre.
Concrètement, dans les programmes, c'est quand même un nouveau ton, ces radios. Hein.
Oui, c'est un nouveau ton, notamment avec l'arrivée en 1955 d'Europe numéro 1, où les journalistes présentent eux-mêmes leurs informations, alors qu'avant, aussi bien à la radio d'État française, à la RTF ou à Radio Luxembourg, c'était des speakers qui présentaient les informations. Les journalistes écrivaient leurs papiers et c'était un speaker qui, lui, disait l'information.
Comme un comédien, alors, en fait.
Voilà, comme un comédien. Et alors que Europe 1, les journalistes ont commencé à parler dans le micro. Et c'est aussi avec Europe 1 qui est arrivé qu'on appelle un magnétophone qui s'appelle un Nagra, un magnétophone de fabrication suisse, qui permettait de pouvoir faire des reportages et ramener des sons assez rapidement que précédemment.
Les années 70, c'est aussi le début de la FM. Même si on l'exploite vraiment dans les années 80 avec l'arrivée des radios libres, on a quand même de la FM. À partir de quand et comment se développe ce nouveau format?
Ben, en FM, on entendait que France Musique et France Culture à l'époque. On va retrouver en 1975, puisqu'on fête aujourd'hui les 50 ans, l'arrivée de FIP en FM aussi à Paris, France Inter Paris, et après s'est développé, ça c'était pour la radio publique.
Mais oui, vous êtes bien sur 514 mètres onde moyenne. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel. C'est aujourd'hui la générale de France Inter Paris 514 mètres. Ce que sera France Inter Paris 514 mètres? Eh bien, découvrez-le en nous écoutant.
On retrouve aussi dès 1975-1978 des radios qu'on appelait Radio Libre à l'époque ou Radio Pirate qui ont émis un peu partout en France. Il y en a eu aussi pas mal du côté de la Riviera italienne sur la Côte d'Azur puisque le monopole a sauté en Italie en 1976 et certains se sont installés à Vintimille ou à San Remo pour émettre à direction du public français et en langue française des stations radio. Donc ça a été Radio Vintimille International, Radio Nova International, Radio Midi, Radio K par exemple. Et aussi d'autres exemples du côté des Landes où certains émettaient depuis l'Espagne avec l'aide des radios espagnoles où ils louaient du temps d'antenne, une heure ou deux heures sur ces radios espagnoles à destination du public français du sud-ouest et notamment de la région des Landes, émettaient jusqu'à Bordeaux notamment.
Pour faire la transition avec notre prochain épisode, le numéro 2 de Révolution dans le Transistor, on va parler également d'une radio offshore, car il y avait une radio sur un bateau. Alors expliquez-nous un petit peu cette histoire de radio Caroline, comment on dit ?
Caroline en anglais ou Caroline en langue française, en hommage à la fille du président Kennedy, a été créée en Angleterre. Ben, en Angleterre aussi, il y avait le monopole et un certain Irlandais, Ronald O'Reilly, eut l'idée de monter un émetteur et une station de radio sur un bateau et en dehors des eaux internationales anglaises, notamment dans l'estuaire de la Tamise, où a démarré Radio Caroline. Mais bon, Radio Caroline n'est pas la première radio offshore, c'est-à-dire sur un bateau, puisque la première, c'est Radio Mercure, qui était au large de la Suède. Et puis après, on a eu beaucoup d'autres radios aussi au large de la Hollande et de la Belgique. Ça, c'est dans les années 65, jusqu'à la fin des années 70 aussi.
Serving the British Isles, 14 swinging hours a day, this is 199 Radio Caroline.
100 show.
Et ça se passe comment, le quotidien dans une radio offshore? Comment on fait pour...
Le quotidien, il suffit de regarder un excellent film qui a été fait qui s'appelle Good Morning England, qui est un peu l'histoire de Radio Caroline où les animateurs partaient pour 15 jours et ils vivaient à bord, ils dormaient à bord, ils mangeaient à bord et ils faisaient leurs émissions. Quelques années plus tard, certaines émissions étaient enregistrées à terre, soit en Angleterre, soit en Espagne, et après diffusé à bord par bande magnétique.
Voilà, ce qui n'existe plus, hein, vraiment.
Non, il n'y a plus de radio sur des bateaux. Les bateaux existent toujours.
Par contre, des émissions enregistrées, ça, il y en a beaucoup.
Oui, ça.
Merci en tout cas Alain Léger de nous avoir donné votre éclairage sur cette histoire de la radio des années 20 aux années 70. On aura l'occasion, je pense, de vous rappeler dans un autre épisode pour parler d'une autre tranche de cette histoire de la radio que l'on raconte à travers une dizaine d'épisodes dans un podcast intitulé La Révolution dans le Transistor. Je rappelle également le site internet choupe.fr. Eh ben voilà. Merci Alain.
À bientôt.
Révolution dans le transistor.
Notre deuxième grand témoin dans ce premier podcast consacré à l'histoire de la radio est un des premiers à s'être lancé dans la radio pirate à Lille sur un campus universitaire. Bonjour Christian Verwerde.
Bonjour.
Alors que les radios libres fêtent leurs 40 ans, Radio Campus à Lille, dont vous êtes le fondateur, peut se targuer d'avoir 52 ans. D'où vient cette particularité, Christian?
Eh ben, ça vient du fait qu'on a commencé en 1969, on a commencé tout. Et puis que moi j'étais passionné, mais alors à fond quoi. Depuis mon adolescence, je ne pensais qu'à ça, faire de la radio. J'étais élevé aux radios pirates en mer du Nord, moi. Donc et puis ensuite, bon, ça a progressé et ça a tenu le coup pendant toutes ces années parce que on faisait une équipe de passionnés. On n'hésitait pas à passer notre temps à utiliser notre matériel personnel pour faire de la radio. Ça a duré comme ça pendant un demi-siècle et ça continue encore.
Et en 1969, pourquoi créer Radio Campus à Lille?
D'abord, moi j'avais créé une petite radio pour les copains quand j'étais chez mes parents à Dunkerque. Et je voulais imiter Radio Caroline, qui émettait depuis un bateau en mer du Nord.
Radio offshore, exact.
Ouais. Voilà. Et donc j'ai fait mes premiers essais là-bas. Ensuite, quand je suis venu à l'université de Lille pour faire mes études, j'ai répliqué l'expérience. C'est un truc qui a marché tout de suite, du premier coup, quoi, parce que la bande FM était assez maigre. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radios. Sur les grandes ondes, il y avait quelques radios périphériques. Sur les ondes moyennes, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'était le désert. Et puis, les étudiants qui étaient là-bas, ils n'avaient pas grand-chose à écouter. Il n'y avait rien qui les branchait, qui était de leur époque. Moi, j'ai commencé sur les ondes moyennes à balancer des programmes de musique que je récupérais sur la BBC le week-end quand je rentrais chez mes parents. J'enregistrais. Alors, il y avait là toutes les dernières nouveautés de pop, de blues, etc. Et que personne ne connaissait en France. Et quand je revenais à l'université, dans ma piole de résidence universitaire, bon, je passais ces trucs-là. Et ça avait une audience extraordinaire, quoi, sur le campus.
Comment on se fait connaître? Parce que, émettre d'abord en onde moyenne, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il faut une grande antenne, ça, c'est pas de la FM.
Oui, c'est, il faut une grande antenne. Mais bon, moi, j'habitais au quatrième étage d'une résidence. J'ai fait pendouiller un fil assez long par la fenêtre. Et ça a marché, quoi. La première fois, j'avais branché la monture de mon lit sur la sortie antenne de l'émetteur. Ça a marché aussi. C'est une question... Bon, il faut un grand fil, mais c'est aussi une question d'adaptation de l'antenne à l'émetteur. Et bon, j'avais réussi à adapter la monture de mon lit d'une manière assez précise. Ça marchait. Ça marchait pour toute la résidence et tout. Ça allait pas plus loin. Mais ensuite, on a fait installer un fil, un long fil, qui faisait le tour de la résidence universitaire. Donc, c'est 5 bâtiments et bon, le fil il faisait peut-être 200 mètres de long, hein, donc là on portait bien, quoi. Et le campus écoutait, hein, le soir, on émettait de 8h à 10h le soir, donc 2h par jour seulement, ben, on avait de l'auditeur, hein.
C'est quoi l'ambiance en studio à l'époque?
Ah ben, c'était la rigolade, quoi. On s'amusait bien, hein. On bricolait dans la journée, on bricolait des trucs, on réparait, voilà, table le mixage, on l'avait fait nous-mêmes, l'émetteur, on l'avait fait moi-même. Bon, c'était bien, quoi. C'est une époque active, chaude, enrichissante.
C'était plus un défi technique, finalement, qu'un message que vous portiez à l'époque?
Bon, il y avait les deux. Moi, il y avait le fait que ça m'intéressait beaucoup, les émetteurs. Moi, j'ai fait des études d'électronique. Je suis ingénieur électronicien de formation. Et avant, j'ai commencé à m'intéresser à l'électronique bien avant d'être à l'université. Donc, le défi était là, faire un émetteur, faire comme les grands. Et le deuxième défi était de renouveler un petit peu la musique qu'on entendait sur les ondes à cette époque.
Dites-moi, Christian, quand on parle des radios pirates de cette époque-là, on parle souvent de course-poursuite avec la police qui monte sur les toits, qui démonte les antennes, mais on a l'impression, en vous écoutant, que finalement, vous étiez assez tranquille dans votre coin.
Oui, on était assez tranquille. Alors, on n'a jamais trop compris pourquoi, parce que moi, j'étais régulièrement convoqué par... ce qui était à l'époque les renseignements généraux, là. Ils me demandaient ce qu'on faisait, j'expliquais, et puis il se passait rien, quoi. C'est tout. Ils nous surveillaient discrètement, mais personne ne se plaignait de notre activité. Et je pense que à l'époque, ils se disaient, s'ils font pas trop parler d'eux, on les laisse tranquilles. D'autant plus que on était soutenu par le président de l'université à l'époque. Qui trouvait l'expérience intéressante.
Illégale, mais intéressante.
Oui, et on a même été soutenu par le recteur de l'académie. Un jour, le président me demande, voilà, le recteur voudrait nous voir, donc hop, on va partir avec le président de l'université chez le recteur, qui a demandé un petit peu ce qu'on faisait, à quoi ça servait, et puis il dit, bon, ben, voilà... il a donné son aval, quoi, plus ou moins. Mais ça n'a pas duré comme ça tout le temps, parce que en 74,
les choses se compliquent avec Giscard en 74.
Ouais, c'est ça. Oui, et c'est lui qui est élu et c'est lui qui ne veut pas entendre parler de liberté, d'indépendance des ondes radio, parce que en Italie, ça avait été le bordel. Il y avait des radios d'extrême gauche qui ont plus ou moins soutenu des gens qui avaient des méthodes un peu difficiles, quoi, un peu terroristes. Et il voulait pas que ça devienne comme ça. Pour lui, les radios libres, c'était synonyme d'extrême gauche et de terroriste. Donc, il a fait accentuer la répression sur ces radios libres, qui n'étaient pas nombreuses à l'époque. Hein. Il y avait nous, il y avait peut-être quelques expériences en France, dans l'Est. Donc là, on a vu le changement, quoi. Là, on a été saisis, on a dû arrêter.
En FM ou en onde moyenne, là?
Ben, on émettait à la fois en FM et en onde moyenne, les deux. Mais à cette époque, en 1974, on couvrait toute l'agglomération de Lille au Bétourcoin. En FM, il fallait pas une grosse puissance à l'époque. Hein,
oui, il y avait
personne. Il y avait très peu d'émetteurs, il n'y avait pas de promiscuité avec les autres, donc ça passait. On avait un émetteur de 100 watts, et puis ça marchait bien. Et les ondes moyennes, le soir, quand la propagation moyenne est meilleure, j'allais jusqu'à Dunkerque, ça fait 80 bornes. On nous a saisis discrètement pendant les vacances universitaires.
Donc ça, c'est les années Giscard, ça en est en quoi, 74, voilà. 75?
74.
74. Voilà. Et après, donc, vous allez vivre pendant 6 ans de façon un peu cachée.
Alors, pendant 6 ans, on a dit, bon, on va continuer comme ça, clandestinement. On va aussi donner un coup de main à tous ceux qui voudraient se lancer dans l'expérience. Parce que c'est une idée qui commençait à germer dans l'esprit de pas mal d'associations et de groupes. On a travaillé avec pas mal de gens, par exemple des écologistes qui s'appelaient les Amis de la Terre à l'époque, avec la CGT, enfin avec un tas de gens, quoi. Et nous-mêmes, on encourageait le maximum de monde à se lancer dans la bataille.
C'est vous qui avez équipé François Mitterrand ?
Non, c'est pas nous. Non. Non, là, c'est plutôt les Parisiens, là, qui ont découvert la radio libre. C'est eux qui l'ont inventé, c'est bien connu.
Ah oui, bien sûr, forcément. Après cette période de lutte, donc 81, l'élection de Mitterrand, Mitterrand qui arrive au pouvoir, c'est la fin des ennuis pour vous ? C'est la reconnaissance immédiate ou c'est encore la lutte ?
Ah non, c'est pas la reconnaissance immédiate, parce que avant, en 80, on a été fort chassés, on a été poursuivis, saisis. Moi, j'ai eu droit à un jour qu'on est metté dans une tour dans le Pas-de-Calais, à Avion. On a eu droit à un assaut par l'équivalent du GIGN de l'époque, là, et avec saisie du matériel, menottes et tout le machin, quoi.
Comme des forcenés, quoi.
Ouais, on a été inculpé, là. Et puis, quand Mitterrand est arrivé, bon, tout le petit monde a été gracié, aussi, donc, tant mieux, quoi. En 80, juste avant les élections, on était brouillé par TDF. Et ils brouillaient toutes les radios pirates, hein, et on changeait de fréquence de temps en temps pour ne plus être brouillé, mais ils suivaient. Donc, on était brouillé. Alors, il y a pas mal de radios qui n'ont plus été brouillées à partir du moment où on a autorisé les radios libres. Mais nous seuls en France, on a continué à être brouillés. Alors on avait beaucoup emmerdé TDF hein, avant, et je pense que c'est une petite vengeance. Il a fallu faire intervenir le député, le sénateur du coin, pour arriver à se faire débrouiller, quoi.
Les fréquences ensuite sont tombées rapidement. La légalisation de votre position sur la FM ou pas ?
Oui, ça a été assez rapide. Je pourrais plus dire quand, mais je crois que c'était en 83. On a eu une fréquence assez rapidement. On a changé en fait 3 fois de fréquence. Et maintenant, on est sur 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ensuite entre 81 et maintenant ? Est-ce que c'est un long fleuve tranquille ou est-ce qu'il a fallu encore lutter, je ne sais pas, contre, par exemple, les réseaux nationaux qui arrivent dans les années 85-86 ?
Non, on n'a jamais considéré que tout ça, c'était des concurrents. On a chacun notre auditoire, notre style. On n'est pas hostile aux commerciaux. Ils font leur truc. Il y a des gens qui écoutent, tant mieux pour eux. Nous, on fait notre truc. On a des auditeurs. C'est bien aussi.
Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas venu essayer de vous racheter la radio, par exemple ?
Non, pas nous. Mais on jouit d'une espèce de respect, si on peut dire. On se méfie un peu, quoi. Jamais on nous a emmerdés. Jamais. Mais le problème à cette époque, c'était d'avoir des sous pour continuer. Et il fallait quand même avoir du matériel après, parce qu'il fallait faire de la radio quand même d'une certaine qualité. Et on ne pouvait plus bricoler avec notre matériel personnel. Il fallait des trucs un peu plus sérieux. Donc le problème, c'était les sous. Avant les aides gouvernementales, on a quand même ramé pas mal. Mais bon, on s'en est sorti. On a continué à bricoler un petit peu parce qu'on avait des bras, on avait des idées. J'ai dépensé tous les copains qui étaient autour du projet à l'époque ont mis de leur poche. Et puis on a eu l'aide aussi de l'université qui nous a donné un local.
Oui, lorsque vous étiez légalisé, effectivement, vous redeveniez fréquentable.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc on est un beau local dans lequel on est toujours d'ailleurs.
C'est quoi le secret de la longévité pendant 52 ans ?
Bah, je crois que c'est de savoir s'entourer de passionnés, et ce qui est le cas. C'est aussi... Moi, j'ai toujours un principe, c'est de pas dépenser plus que je gagne. C'est pas d'avoir l'idée de se développer au-delà de nos moyens. C'est de faire avec ce qu'on a, de progresser petit à petit. Donc, c'était une sécurité. Il y a pas mal de radios de campus qui se sont lancés et ils se sont rendus compte assez tôt que c'était une charge assez lourde d'administrer le truc. Et ils se sont mis à engager des gens, des salariés. Et ça a été un frein. Ça les a fait couler la plupart parce qu'ils ne pouvaient plus payer à la longue. Donc, nous, on n'a jamais voulu ça.
Donc, vous êtes 100% bénévole ?
Non. On a fait le travail nous-mêmes. Quand on a estimé, avec nos subventions et nos sous pour ramasser à droite et à gauche, qu'on pouvait payer un salarié, on a engagé une secrétaire pour faire le travail d'administration. On a aussi des services civiques et des gens qui font des piges, c'est tout. Mais on a les moyens, on va pas se dire, on va on va embaucher quelqu'un alors qu'on n'a pas les moyens. Ça, c'est un des secrets de la longévité. Hein. Et puis, il y a le fait que les membres du conseil d'administration, c'est des bénévoles, ils sont pas là pour gagner des sous. Ce qu'on a fait aussi, bien qu'on soit une radio de campus, pour éviter que la radio s'arrête rapidement, faute de gens qui s'en occupent, on a fait en sorte de ne pas faire un conseil d'administration où il n'y aurait que des étudiants. Parce que l'étudiant, lui, il n'est pas disponible toute l'année, hein, il a ses examens, il part chez ses parents pendant les vacances.
Et au bout de ses études, il part définitivement, surtout.
Oui, c'est ça, oui. Et on a préféré laisser des gens qui sont déjà dans la vie active s'occuper du CA de la radio.
On sait qu'il y a beaucoup d'associations et beaucoup de radios, notamment, qui ont cette crise de bénévoles où on n'arrive plus à trouver aujourd'hui, en 2021, autant de bénévoles qu'on en trouvait effectivement dans ces années 80, où finalement il y avait quand même beaucoup moins de médias, il y avait beaucoup moins de loisirs, on va dire, et de distractions diverses. Est-ce que vous traversez cette crise de bénévoles aujourd'hui ?
Oui, comme tout le monde. Il y a moins de bénévoles et les bénévoles qu'on a sont pas toujours d'accord pour donner leur temps comme le bénévole d'antan faisait, ça c'est sûr. Oui.
Et on peut tourner quand même ?
Oui, on arrive, on a quand même plus de 100 bénévoles, on a plus de 100 émissions dans la grille. 100 bénévoles titulaires de l'émission, mais ils ramènent des aides, des techniciens à eux, donc ça fait dans les 200-250 bénévoles. Mais on a des bénévoles pour faire des émissions, pour parler de choses et d'autres, mais pour s'occuper de la radio, de l'administration, là, on n'a pas beaucoup de candidats. C'est là qu'est la crise. Je trouve que le bénévole est devenu aussi un consommateur, maintenant.
C'est plus agréable de faire de l'animation, effectivement, ou du journalisme, absolument, que ouais, de faire de la comptabilité.
Et puis d'être au conseil d'administration, c'est-à-dire être critiqué, que quoi qu'on fasse, on ne fait jamais bien. Hein.
Christian Ververde, fondateur de Radio Campus à Lille, dites-nous un petit peu comment vous voyez la radio dans les 52 prochaines années.
Dans les 52 prochaines années. Bon, moi, je pense que la radio existera toujours. Contrairement à la télé, je pense que ça va peut-être pas durer très longtemps avec tout ce qui est Internet. Par contre, la radio, tant qu'on aura des autoradios, je crois que ça va continuer. Je pense que le DAB+, c'est un bien. Le DAB+, c'était un petit peu comme si on recommençait l'expérience de la radio pour nous. C'était un petit peu une renaissance. Mais je pense que l'avenir de la radio est là, peut-être dans de la radio interactive, je sais pas. Je vois ça comme ça.
Ok, en tout cas, on vous souhaite de faire perdurer cette expérience lilloise encore longtemps, hein, Christian, avec
oui,
votre équipe.
Ben, j'espère aussi, mais à la longue, on s'use un peu quand même.
Merci, en tout cas, d'avoir participé à cette émission, à Révolution dans le transistor, l'histoire des radios libres. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
On termine cette émission avec quelques extraits d'émissions de légende.
Bonjour, monsieur le maire. Une émission réalisée grâce à Butagaz Propagaz.
Butagaz Propagaz, le confort sous chaque toit. 1, 2, 3, hop là, la flamme, la voilà. Butagaz et Propagaz.
Signé Furax, le quatrième épisode du feuilleton quotidien de Pierre Dac et Francis Blanche.
Soleil, sur Europe 1.
Maintenant, ce sont des millions de gens qui écoutent chaque jour Madame Soleil à la radio. C'est la consultation astrologique de masse. En 1970, Madame Soleil est devenue un personnage de tout premier plan.
À 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidables. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidables.
Salut les copains.
Salut les copains.
Une émission de Daniel Philippe.
Alors ne tirez pas.
Du cœur au boulot, wow, wow, wow. Mélodie parade, Gérard Klein.
J'ai
L'Oreille en Coin, c'est la radio de votre week-end de Jean Garretto et Pierre Caudoux sur France Inter. L'Oreille en Coin, samedi après-midi, est animée par Claude Dominique.
L'aventure au coin de l'oreille, par Robert Arnaud.
Et on cherche toujours le trésor des Incas, Robert Arnaud.
On le cherche plus que jamais. Vous avez en ce moment, dans la cordillère, trois équipes très sérieuses. D'abord l'équipe de Mortensen et Carozzo, ici.
Ça casse trois pattes à un canard, Jacques Trémolin.
Il faut le dire avec force, non. Les crapauds ne sont pas homosexuels, ils ne le sont jamais, ils ne le sont en aucun cas.
Le dimanche matin, c'est Jean Amadou de Mèche avec vous. Et aussi, téléphonez-nous, nous ferons le reste avec Patrick Burgel, Pierre Sacca et Agnès.
Bonjour et bon dimanche.
Chers amis, bonjour. Je vais m'adresser à Monsieur Le Sobre. Et je vais lui demander de répondre à la question de Mademoiselle Laurence Benoît, qui habite Sainte-Maure de Touraine, en Indre-et-Loire. Voici deux dates qui, en quelque sorte, se complètent. 15 août 1769 et 5 mai 1821. À quoi se rapporte-t-elle ? 15 août 1769, 5 mai 1821. Ces dates se rapportent à quelqu'un ?
5 mai à Napoléon ?
Ah, bien sûr. La date de naissance et de mort de Napoléon. $220, mais je pense que vous voudrez tenter le...
Banco.
Le banco. Merci pour les cœurs. Les 1000 francs du banco que nous lui offrons de la part de France Inter sous les acclamations de Rocamadour, Grana et tous les environs. Merci, bravo, et à demain, si vous le voulez bien.
Je suis heureux de vous accueillir, madame. D'abord, bien sûr, parce que vous êtes Arletty, mais aussi parce que vous avez fait la preuve que l'on pouvait être indifférent aux scandales et aux petites intrigues de notre petit monde. Vous avez été frondeuse, vous avez été insoumise, canaille, mais toujours généreuse. Alors, la générosité, est-ce que c'est le mot-clé ?
Oui, je crois. J'ai l'impression, il faut être généreux. D'abord, je crois qu'on porte ça en soi, la générosité.
Radioscopie. Radioscopie.
Simone Signoret.
Jacques Chancel. Coluche, on va essayer tout d'abord de faire une présentation rapide. Sur scène, une trogne fort enluminée de fêtards, je dirais heureux. Une salopette bleue.
Oui.
Un personnage tout à fait dessiné.
Les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio.
Ah bon ?
Qui pisait ? Je te traduirai après. Qui pisait une émission de radio dite comique, ou au moins qui tente de l'être.
Mesdames, messieurs, la cour. L'avocat de la défense, Louis Rego. Le procureur général de la République, Pierre Desproges. Le président, Claude Villers.
Nous sommes le tribunal. Les messieurs comme les dames, avec ou pas innocent, tout le monde y est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas de question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire. Les flagrants délits.
L'audience est ouverte, huissier appelé.
Le ministère public contre Jean d'Ormesson.
Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
D'Ormesson, Jean, je suis né en 1925. Je crois que vous allez surtout assister sur mes défauts, je dirais, non ?
Non, mais également sur votre profession, donc il vaut mieux la dire aussi.
Profession, écrivain.
Radio Monte Carlo.
Vous êtes près de 5 millions d'auditeurs à l'écoute de Radio Monte-Carlo, 1400 mètres ondes longues, la station du sud de la Loire qui fait maintenant rayonner le soleil de la Méditerranée jusqu'aux portes de Paris. Pour Radio Monte-Carlo, 3 centres émetteurs. Ils consomment autant d'électricité qu'une ville de 50 000 habitants.
h30, avant le chant du coq, je vous dis bonjour, José Sacré, bonjour avec des chansons gaies de préférence pour que vous soyez de bonne humeur dès le petit matin.
RMC, Radio Monte Carlo.
Ah, la France est un beau pays, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Léon. Comment s'est passé le mariage auquel vous avez assisté hier après-midi?
Oh, émouvant, Jean-Pierre. Le marié avait 85 ans et la mariée, 22.
C'est beau tout de même, l'amour. Et alors?
À la sortie de l'église, Jean-Pierre, au lieu de jeter du riz, les invités ont jeté du Vitas Corbol.
Vive la France!
Vive la France!
La stature garde la mer qui vagabonde.
Allons chanter avec Mickey, allons danser avec Minnie, avec Donald, avec Goofy.
RMC, c'est plus près, RMC, c'est plus chaud.
Grâce au 121, tous les jours à 11h30, vous pouvez gagner 200 et même 2000 francs avec le croupier de service.
Frédéric Gérard.
Midi Match, Jean-Pierre Foucault.
Midi Match, une émission jeu spectacle tous les jours à 11h45. Deux équipes s'affrontent amicalement pour tenter de gagner 1000 francs par jour ou alors la super prime de 10 000 francs. Avec Carole, nous supportons les tandems interchangeables de Midi Match. Pierre Doris, Micheline Dax. Perrette Pradi, Roger Carrel. Suzanne Gabriello, Philippe Clay. Ginette Garcin et Jean-Marie Prolier.
Quelle largeur minimum a le pas de Calais?
31.
Oui, monsieur, 31 kilomètres. Ouais.
Quitte ou double, 79.
Bonjour, ici Jacques Paoli. Ici ou ailleurs, parce que notre journal se déplace et va à la rencontre de l'actualité. Nos forums, notre association avec la presse quotidienne régionale, nos forums nous permettent d'aller à la rencontre de ceux qui font l'événement.
Les journalistes,
qu'est-ce que j'avais...
au fond, je serai responsable.
D'abord, je n'avais
de
pas
tout.
Voulu dire le contraire de ce que je pense.
Après tout, je n'en sais rien.
Et ce que je pense.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'archaïsme, qu'est-ce que ça veut dire? Sur le plan du style, chacun a le sien.
Régional avant tout, Radio Monte-Carlo a installé ses bureaux, ses studios au cœur des provinces. Marseille, Bordeaux, Lyon, Montpellier. Paris.
Georges de Caunes, Liliane Rose, Les rêves de la vie.
L'incroyable vérité. Une émission de Jean-Pierre Imbroris. Raconté par Benoît Hallemann.
Grâce à ses standards itinérants, Radio Monte-Carlo est en prise directe avec ses auditeurs. Plus d'indicatifs régionaux, 6 chiffres sur le cadran du téléphone et RMC est au bout du fil. Le courant courrier Radio Monte Carlo. 3 500 000 lettres par an. Autant de preuves que le dialogue entre Radio Monte Carlo et ses auditeurs est chaleureusement établi.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour Carole.
Quelle est la chanson que vous souhaiteriez entendre?
Vicky et Ambrose, notre tango d'amour, s'il vous plaît.
Allô?
Oui, monsieur.
Je voudrais le gorille de Georges Brassens.
Allô?
Bonjour madame.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour Carole.
Bonjour.
Alors je demande Les Potins d'abord par Cézanne Gabriello, s'il vous plaît.
3 ans de musique ininterrompue pour qui voudrait inventorier les richesses de la discothèque.
Radio Plus, chez vous. Yves Morosi.
Bonjour.
Révolution dans le transistor.
Partout dans le monde.
C'est les conseils,
L'infotrafic.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Le numéro 2 de Révolution dans le Transistor sera consacré aux radios pirates. Vous savez, ces fameuses radios interdites dans les années 70 qui allaient permettre de faire éclater le monopole d'État sur la radiodiffusion en mai 81. À très vite sur la fréquence.
Et votre journée devient plus belle.